Non, je m'en vais.
Bonjour, bienvenue et puis réjouissez-vous car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Arturo Brachetti qui interprète chaque soir pour un seul cachet 80 rôles différents. Voici vos grosses têtes. Les bons pères ont cessé de lui donner des cours quand ses pantalons sont devenus longs. Jacques Maillot.
Bonjour.
Avec un peu de salive, il vous fait une énorme soupe au lait. Bernard Mabille.
Bonjour.
Elle a détourné moins de mineurs que demain baladeuse. Chantal Latsou.
Bonjour.
Il séduit principalement les filles avec son air d'en avoir deux. Philippe Chevalier.
Bonjour.
Tant que ces chèvres n'auront pas accédé au langage articulé, on ne connaîtra rien de sa vie sexuelle. Pierre Bellemare.
Je ne sais pas si tu veux dire bonjour.
Je crois que tes chèvres sont très girondes.
Hein. Ah oui, ça c'est sûr.
C'est on sûr. Se baignait dans la Garonne ou pas?
Oh, ça va, hein. Ça suffit maintenant. Allons.
Est-ce qu'il y a du Dro un peu plus tard.
Est-ce qu'il y a une caserne de légionnaires où elles peuvent recruter des fiancés?
Eh non, malheureusement. Ah, oui. Malheureusement, nous n'avons pas ce genre de choses dans notre coin.
Mais t'es alors, pas obligé pareil, de te aujourd'hui, déguiser. Un classement des politiques en raison de leur look, c'est-à-dire pas de leur proposition, non pas de leur aptitude à diriger le pays, mais en fonction de la façon dont ils s'habillent, dont ils se présentent. Et si vous avez un classement différent, je vous serais très obligé de nous l'indiquer. Alors, le Grand Prix, c'est Ramayad.
Ah oui.
Ah oui. Bah oui, c'est séduisant.
Ah, attendez, Philippe, est-ce que je peux me permettre une petite intervention? Oui. Vous parlez du look ou du physique?
Alors, il y a les deux quand même. Il y a les deux parce que on ne porte bien la toilette que si
on est mignon, oui.
Oui, quand même.
Si on n'est pas trop mal foutu, quand même. Oui. C'est mieux, oui.
Mais elle est déjà très belle.
Alors, oui. Elle est très belle, elle s'habille bien. Elle a, vous avez raison de dire, elle a des pantalons.
Pantalons et boléro.
Tout
souvent.
Le temps des pantalons.
Mais oui, souvent, un décolleté qui
avec
est assez
un
généreux.
Petit corsage ouvert.
Des pantalons rayés.
Alors, ensuite, dans la présentation très différente et les idéologies qui n'ont rien à voir, deux ex-aequo, François Fillon et Daniel Cohn-Bendit.
Alors qu'ils n'ont rien à voir. Oui.
Ils n'ont pas le même tailleur.
Il y en a un qui est habillé sport, ouais, c'est le vert.
Oui.
Il y en a un qui s'habille chez
Armiste. Il ne se ressemble pas du tout.
J'ai compris. Et l'autre, à mon avis, même
Fillon,
pas
il est très élégant, Fillon. Très
propre sur lui.
Ah, ah oui, et la coiffure, très bien coiffure.
Il
est peigné.
Il ne va pas arriver en dégueulasse non plus. Mais
oui, c'est normal, un Premier ministre. Comme Bendit, il est plutôt un peu décontracté.
Ah bah oui.
Il est bouchonné un peu.
Il y en a un qui a une cravate et l'autre qui n'en a pas.
Ah oui, qui n'en a pas.
Il y en a un qui est coiffé et l'autre qui ne l'est pas.
Il est frisé. C'est pas facile pour un frisé d'être.
Comme Bendit, c'est souvent chemise à carreaux et veste de
Rustique un peu.
Il fait 68 heures échappé de la
Sorbonne. Moins que José Bové.
Ah ben José Bové, c'est pas rustique.
Ah bah oui,
c'est
José Bové. Et
puis alors, quand il tombe dans son machin à sueur, vous avez vu les.
C'est rustique, lui.
C'est paille-foin.
Alors ensuite, il y a Christine Lagarde.
Ah, elle est très bien.
Pas mal. Tirée à quatre épingles.
Pas mal, mais un peu BCBG, mais un peu sportive aussi.
Oui,
très BCBG.
Très, très mince.
Oui, c'est une très belle
silhouette.
Elle a une silhouette.
Oui. C'est une jolie femme.
Élancée, oui.
Et de loin, elle est charmante.
Oui, jolie femme, mais pas très sexy.
Non, elle est un peu dure, je veux dire.
Un peu
de près, elle est un peu.
J'ai hâte qu'on arrive à Bachelot. Mais
elle
a une.
Elle est copieuse, oui. C'est sympathique.
Elle est très
copieuse.
Élégante. Comment elle s'appelle Bachelot?
Bachelot, c'est.
Roselyne.
Elle milite pour l'équilibre des biomasses.
Très, très beau prénom.
Vous avez vu qu'on ne parle plus du tout de la grippe?
Non.
Non, mais non. Même de la grippe normale.
Non, il n'y en a pas cette année.
Mais elle l'a tuée l'année dernière, la grippe ne reviendra pas.
D'habitude, on parle tous les ans de la grippe.
Non, mais il y en a
mais
pas.
Mais il y avait la neige, on ne pouvait pas parler de la grippe.
Ah, bah oui, c'est
temps.
Ça, on ne peut pas parler de deux choses en même temps.
Quoi que tu as souvent la grippe avec la neige.
On ne parle plus de la grippe.
Alors ensuite, il y a...
Hier, j'ai parlé de la Gironde pour ne pas parler de la grippe.
Ah, oui, tu n'as pas recommencé.
En cinquième position...
Ah non, non, d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui. Ah oui, attends, non, oui, c'est...
En cinquième position, je vous signale qu'il y a un représentant des Quadras. Beau garçon, on demandera d'ailleurs à Chantal son avis. C'est François Baroin. Hein.
Oui, c'est
oui. Ah oui, mais il vieillit pas, lui. Hein.
Mais non, mais il a toujours fait jeune, parce qu'il a commencé très jeune.
Voilà.
Il a une voix, il a une voix très grave.
Il aime les femmes mûres.
Oui.
Bah, il est avec une actrice.
Oui.
Et... Bah, qui n'est pas mûre.
Oh, elle, ah, est... Bah, elle est roblette, mais elle est mûre.
Elle est mûre.
Ah,
ouais. Ouais.
Ouais. Ah ben je la voyais pas si mûre que ça.
Puis-je vous rappeler que François Baroin exerce la tutelle des impôts. Alors une sourdine, s'il vous plaît.
Il est avec une très belle femme.
Oui. C'est vrai qu'elle est charmante. Non, mais elle est charmante. Et c'est une très bonne actrice. Et elle a beaucoup de talent. Elle est vraiment charmante.
Ah oui.
Non, je le dis. Je le dis parce que je le pense.
Lui est très chic.
Alors, il est formidable.
Il porte la cravate.
C'est un ministre de tutelle de nos impôts. Absolument remarquable. C'est un homme remarquable. Jamais vu un type pareil. Et puis,
je verrais bien Premier ministre.
Oh, moi, je le verrais bien président de la République. Monsieur Baroin, si vous nous écoutez, vraiment, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. J'espère que je vais y échapper cette année.
Moi, j'ai bien connu son papa.
Ah oui, la FNAC.
Bien sûr, c'est un homme formidable.
Ensuite, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet.
Elle est pas mal.
C'est celle qui a failli se vautrer avec ses talons aiguilles sur les pavés du ministère de Bordeaux.
Oui, mais ça peut d'ailleurs, c'est quand elle monte les degrés de l'Élysée, qui sont d'ailleurs extrêmement dangereux pour les femmes en talons.
Hein. Oui.
Il y a Hillary Clinton qui avait perdu sa godasse, vous vous souvenez?
Elle avait chaussé trop grand.
Aussi, il a des talons.
Vous êtes sûr que c'est pas Cendrillon?
Attention, hein.
Et puis alors, il y a Benoît Hamon, parce qu'il faut bien représenter de l'opposition.
Là, c'est sévère, ça.
C'est le Parti Socialiste. C'est le porte-parole. Et il ne porte pas que la parole, il porte la cravate aussi, ce qui n'est pas tellement répandu à gauche.
Pas,
aujourd'hui.
Il n'est pas élégant, il faut le relooker.
En plus, il est plutôt bel homme, hein,
Benoît
Hamon.
Il est bel homme, mais il s'habille mal, mais très très mal. Il faut vraiment...
Terrible. Chantal, qu'est-ce
non,
que tu
pas
trouves,
terrible. J'ai pas
moi, je préférais son père, Marcel.
Ah oui.
Tout élégant, drôle, fantaisiste.
Il est toujours un
joueur d'orgue.
Et oui, et le chapeau.
L'orgamon.
Et le chapeau, il avait toujours son sombrero,
Il y avait Bach aussi, Bach Gamon,
bien sûr.
Ah oui.
Mais il n'y a aucun communiste dans le truc parce qu'on dit toujours t'as le look coco. Ah
Bernard Thibault, il est toujours habillé décontracté, lui.
Ah oui.
On a su le pourquoi du look de Bernard Thibault, puisqu'un jour, il a expliqué que c'était sa belle-sœur qui lui coupait les cheveux.
Ben voilà, oui.
Et les toiletteuses pour chiens.
Un jour, il lui a dit ras-le-bol.
Ah, mais il a les cheveux longs parce qu'il a les oreilles un peu décollées.
C'est pour ça qu'il aboie dans les rues entre Nation et Bastille.
Alors qu'on peut très bien se faire recoller les oreilles. Maintenant, ça demande deux heures.
Il faut avoir de la colle forte. Hein.
Pourquoi avec un sparadrap, ça suffit.
Il aurait fallu qu'il demande à Robert U pour la colle U.
Alors, il y a un prix spécial du jury pour un membre du gouvernement qui est remarquable parce que c'est une dame qui a occupé tout ce que on appelle les ministères régaliens et parce qu'elle a toujours le même look depuis ses débuts.
Ah, c'est...
Sauf que au début, elle montrait ses genoux qui étaient qualifiés des plus beaux du gouvernement et qu'aujourd'hui, elle porte le pantalon.
C'est mam.
Alors, elle ne porte pas que le pantalon.
Marie.
Elle porte aussi une écharpe en sautoir.
Elle a de l'allure.
Elle est sexy comme un trombone.
Et alors, le président du jury, qui avait quand même le sens de l'humour, a dit « Nous la choisissons parce que son écharpe lui donne un côté dominatrice et fouetteuse. »
Oui.
C'est dingue quand même. On n'a pas le droit d'avoir froid à la gorge.
Quand elle a été ministre des armées, on la voyait souvent en tenue militaire.
Elle était très bien.
C'était pas une tenue militaire, c'était une tenue civile.
Non, c'est pas une tenue militaire.
Mais ça faisait militaire parce que...
En tailleur, elle était.
Elle avait des tenues de camouflage.
Oui, une fois, elle a mis un treillis pour visiter les armées.
Elle s'était ratée, elle n'était pas camouflée, on la voyait.
Elle était assez excitante. Même au repos, les mecs étaient au garde à vous.
La blonde qui joue.
Non, mais vous imaginez en fouetteuse.
Je vois pas du tout. Ouais. Non, moi je voyais bien une belle fouetteuse, c'était Guigou.
Ah, Guigou, voilà.
Guigou, elle était jolie.
Ah, mais elle a un charme fou.
C'était la blonde.
Pourquoi la mettez-vous au passé?
Parce que
elle n'est pas morte.
Elle est plus ministre.
Elle a toujours beaucoup de charme.
Elle a un
beaucoup
charme.
Alors vous remarquerez que Rachida Dati est absente du palmarès.
Ah oui, tiens.
C'est étonnant parce que c'est une fille quand même très jolie.
Qui ça?
Et qui porte des vêtements de marque.
Ah oui, de marque.
Rachida Dati. Elle met le paquet.
Rachida Dati.
Non, mais je la trouve pas, non.
Tu pourrais faire les grandes blondes, toi, non? Oui,
c'est-à-dire qu'elle est comme Chantal, elle fait un peu peur aux hommes.
Ah bon? J'ai peur aux hommes, non?
Avec ses grandes dents.
Les dents devant, moi, les dents devant, je le ferai
pas. Ça te fait peur, les dents devant.
Je croyais qu'on devait pas se moquer du physique des gens, là.
Non, on se moque pas, on commente.
Bah oui, on commente.
Ah bon, d'accord.
On fait une exégèse, une analyse, il n'y a pas de...
Parce qu'avec les dents qu'elle a, vous partez à 15% d'inflation, vous vous retrouvez à 3.
Les dents attraper la ficelle des pot-au-feu sans se brûler. Oui.
Zaza Gabor, vous savez qu'elle vit toujours?
Zaza Gabor,
je ne sais pas.
Elle a 93 ans.
Oui,
les dents, ça fait
elle a usé 9 maris. Et le 10e n'est pas en bonne forme parce qu'il a confondu son collier avec la glu qu'elle utilisait pour ses cils.
Oh là 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 là. Oh, le pauvre homme. Ah, dis donc. Oh.
Depuis, il a les yeux complètement fermés, ce qui vaut mieux compte tenu de ce qu'elle lui offre à voir le matin.
Oh, dis donc.
Oh non, mais c'est terrible, ça. C'est pas drôle.
Prends ton collier. Non, c'est de la glu.
Parce qu'ils font, ils font cabinet de toilette ensemble.
Oui.
Chez les Gabor.
Eh oui.
Des gens qui ont tellement d'argent.
Mais vous savez qu'il y avait plusieurs sœurs Gabor, hein, et puis une maman.
Maman Gabor.
Et qui, elles ont fait des ravages.
Les femmes et les cousins
et
Tribord.
Les femmes et les enfants Gabor.
Bah oui. Et les cousins Tribord. Il y avait les Gabor et les Tribord. Ah non, mais c'est.
Oui, non, mais oui, on a bien entendu.
Et maintenant, le coup de sang. C'est le coup de sang de Bernard Mabille.
Alors, un coup de sang contre tous ces gens fiers d'avoir su dresser leurs chiens et incapables de dresser leurs gosses. Vous ne croyez pas, allez donc au cinéma en période de vacances scolaires, c'est l'enfer, il y a des mômes partout. Charles-Antoine, arrête de te cramponner à la borne automatique, le monsieur veut prendre un ticket. Trop tard. Du Nutella plein le clavier, du chewing-gum plein la fente, des gerbes de soda plein l'écran, le petit salopard a niqué l'appareil, et les seuls qui soient encore propres sont en rade. Alors là, t'es obligé de faire la queue, tout le tour de la maison, comprenant enfin pourquoi le cinoche s'appelle pâté. Ça n'aurait pas pu marcher avec Gaumont, hein. Des petits braillards partout, par dizaines, des coups de pied dans les guiboles, des coups de coude dans les boules, pas un mot d'excuse. Te voilà moniteur de colonies de vacances, les parents indifférents bavassant sur la dernière critique de Télérama. 50 minutes plus tard, le comptoir enfin, sur 6 films, 5 dessins animés à l'affiche. Enfant roi, mon cul. Et nous, les adultes, on sent le sapin. 4 caisses, un caissier, l'inévitable stagiaire acnéen, débitant son laïus sans même te regarder. Il m'a proposé réduction pour les moins de 12 ans. Réduction étudiant, mutilé de guerre et femme enceinte. Pas de doute, au cinoche, celui qui paye plein tarif est un con. Donnez-moi une place pour le thriller, s'il vous plaît. Ah, le film a commencé, monsieur. Les spectateurs connaissent déjà le nom du tueur. Bon, alors, qu'est-ce qui vous reste à cette heure? Bah, 4 films américains d'animation doublés par Berléand, Cadmérade et Cornillac. Pas de doute, ça sent le chef-d'œuvre. Va pour le dernier Disney, voilà, monsieur, plein tarif, plus 3 euros pour le relief. Et si je veux le voir sans relief, bah aucun problème, mais ce sera flou. 3 euros pour le relief. Non, mais c'est de la vente forcée. Est-ce que vous voyez la grande Lulu vous demander un supplément après la pose de ses implants mammaires? 3 euros plus 2 euros pour la location des lunettes ou 4 euros si vous les achetez. Soulagé de 17 euros, me voici dans la salle, une maternelle overbookée. Les parents pioncent, les mômes se passionnent pour le film. Maman, pipi! Popcorn, papa! Alors là, je chausse mes lunettes magiques. Pas facile quand on a déjà une paire. 3 kilos sur le pif. Tu ressors le tarin en chou-fleur. De toute façon, j'ai dû cavaler derrière un bus sans comprendre qu'il était arrêté. 17 euros pour distinguer un buisson en troisième plan et voir voler un papillon au-dessus du premier rang. 17 euros pour retrouver le monde féerique de mes 5 ans. Le prince charmant en collant moule burne, mais sans burne. La princesse délicieuse sans miche ni nibar. Et les animaux malicieux sans zézette ni trou de balle. Rendez-nous les chèvres du Périgord. l'image est en relief, plus le scénario est plat. Même les petits monstres faisaient la gueule en sortant. « Maman, on s'est fait niquer. On n'a pas vu le prince bourriner la princesse. »
J'aime bien les dessins animés, ça sent.
Ça fait cher, 17 euros. Hein.
Mais pourquoi t'es allé là-bas?
Bah parce qu'il y avait que ça.
Ah oui.
Mais cela dit, nous avons M. Bellemare connu dans notre enfance, ses petites lunettes avec rouge des images bleu, entourées de couleurs différentes, et on avait une impression de relief.
Ah oui, hein. c'est vrai, bien sûr.
Là, la place est à 12,50 euros parce que c'est du relief, et tu payes 3 euros les lunettes.
Non, mais dès l'origine de la photographie, on a inventé la photographie en relief, tout de suite, avant ça, presque immédiatement.
Bah, le daguerréotype, donc, il était déjà en relief.
Donc, il n'y a pas de problème.
Ouais, ouais,
mais de toute façon, je le dis, attendez pour acheter des téléviseurs en relief, parce qu'on en vend beaucoup en ce moment, parce qu'ils sont à lunettes, tous, sans exception.
Et ça va
et on va, non, surtout, on va trouver le moyen d'être sans lunettes.
Sans lunettes.
C'est, déjà, sûr, c'est déjà trouvé.
Oui, ils mais ce n'est pas encore vendu.
Moi, j'ai, des, voilà, j'ai déjà des toilettes sans lunettes.
Ah oui,
très
ah oui,
ça. Tu les as achetées à Istanbul.
Moi, j'ai toujours dit faire dans une douche est un progrès.
Ah, un invité surprise que nous connaissons bien et qui fut longtemps homme de radio et homme de télévision, Jean-Marie Cavada. Bonjour, monsieur Cavada.
Bonjour, mes seigneurs et dames grosses têtes.
Alors, nous avons découvert dans la presse que vous abandonniez le Conseil de Paris pour vous consacrer à l'Assemblée européenne.
Ben, c'est bien vu, en effet. Vous voulez savoir pourquoi, j'imagine. Hein.
Ben, c'est parce que vous êtes contre le cumul ou vous êtes fatigué?
Non, bah, je suis vraiment contre le cumul et j'ai voulu pendant, ça fait quand même maintenant 2 ans, exercer les 2 mandats.
Alors il fallait vous partager en fait, entre Paris et Strasbourg.
Mais oui, oui, mais c'est même pas me partager, il aurait fallu me dédoubler parce que dans 5 sessions sur 10, c'était les mêmes jours. Donc le lundi matin, conseil de l'hôtel de ville, à midi je prenais l'avion pour Strasbourg, pour la session plénière mensuelle à Strasbourg, puisqu'il y a 3 sessions à Bruxelles. 3 semaines à Bruxelles, 1 semaine à Strasbourg. Je revenais le soir pour la séance de nuit de Paris. Donc, oh en fait, je ne traitais rien au fond et ça, c'est insupportable.
Mais enfin, vous le saviez, ça, en vous faisant élire.
Ben, c'est-à-dire que ce que je ne savais pas, et objectivement, ça, je ne pouvais pas le savoir avant, c'est que les calendriers tomberaient, dans presque 1 cas sur 2, la même semaine et le même jour. Vous voyez, c'est-à-dire
que pourquoi avoir choisi l'Europe plutôt que Paris?
Ben parce que je suis, moi, beaucoup plus attaché de tout temps à l'Europe qu'au Conseil de Paris, qui, de toute façon, peut très bien fonctionner sans moi, objectivement. Donc, vous avez bien vu que la Tour Saint-Jacques s'est pas effondrée, l'hôtel de ville tient debout, et ça marchera quand même. Donc, loyalement, je pouvais pas exercer les deux, c'était pas raisonnable.
Ah, dites donc. C'est vous bon. Êtes consolé de n'avoir jamais été ministre?
Franchement...
C'est pas trop tard.
Ouais, non, d'abord, il est jamais trop tard, vous avez bien raison. Ça, c'est Bernard Mabie qui a l'air de dire
oui,
ça.
Oui.
Ça lui ressemble bien.
Oui.
Et puis, c'était pas le but de ma vie, alors après...
Non, enfin, quand on fait une carrière politique un peu tardive, mais réussie, on s'attend à avoir un jour un portefeuille, hein.
Oui, mais il y a tellement de nécessiteux, mon pauvre Philippe.
Vous regrettez pas parfois la radio, la télé?
Eh bien, écoutez, je suis un grand consommateur de radio et de télé, notamment des grosses têtes quand je rentre de Bruxelles en fin de semaine.
Oui, je ne sais pas d'excuses. Hein.
Ah, il faut bien, écoutez, mon cher, faut bien rire. Hein, encore heureux. Non, je n'ai pas de nostalgie de mes travaux de télévision et de radio. D'ailleurs, vous savez, il ne faut jamais rôder sur les lieux de ces crimes.
Voilà, ben écoutez, en tout cas, c'est courageux d'avoir choisi et puis d'être contre le cumul des mandats qui n'a pas été rejeté par tellement de politiciens, hein, sinon théoriquement.
Oui, il faudra y venir parce que les gens sont de plus en plus exigeants, ils ont raison et on ne peut pas tout faire, franchement.
Merci Jean-Marie Cavada, merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
Moi sont réunis aujourd'hui Jacques Maillot.
Présent.
Bernard Mabie.
Présent.
Philippe Chevalier.
Présent.
Chantal Latsou.
Présent.
Et Pierre Bellemare.
Présent.
Et puis, notre invité d'honneur qui a pris ses quartiers d'hiver parisiens aux Folies Bergères. Pendant ses heures de travail, il passe son temps à s'habiller, à se déshabiller. C'est Arturo Brachetti. Regardez comme il est chic avec ce qu'on appelait un 8 reflets, qui est un petit chapeau haute forme. Vous avez enlevé votre cape qui est également très belle. Hein?
Oui, je me promène à Paris avec une cape, un chapeau claque.
dont souvent les gens me demandent l'adresse de des galeries Lafayette, ou encore pire, ils me demandent « Ah, vous travaillez chez Disneyland ?» J'ai dit non, mais... Et puis quelqu'un me reconnaît, et puis surtout, ça me sert pour me protéger la petite tour Eiffel que j'ai sur la tête, tu vois.
Non, c'est élégant, c'est très beau, et, ouais, et vous portez bien la toilette, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein.
La quoi ?
La toilette, ah, je veux dire. Oui, non, c'est pas les, oui, c'est pas les WC. C'est le...
Ça, je le laisse à la maison, normalement.
Qu'est-ce que vous avez sur vous, dans vos poches ?
Aïe, aïe, aïe.
Vous avez
Mais j'ai toujours un petit sac avec moi.
Hein. Ah, oui.
Bon, avec... ça, c'est une souris portable, sourire... bon. Et puis, j'ai toujours des conneries, mais... Bon, enfin, j'ai deux portables, parce que c'est un pour l'Italie, une pour la France. Casse-tête, pour épater les copines... Et puis, enfin non, pour passer du temps au dîner quand on s'emmerde. Et puis, ah ça, je l'ai trouvé dans une... C'est un petit boîtier qui fait une musique de Noël. Enfin, il était dans un papier de vœux de Noël. Mais moi, je le mets toujours dans ma poche parce que de temps en temps, je me le mets dans le caleçon. Comme ça, tu vois. Voilà. Et puis, je dis, ah, joyeux Noël. J'ouvre la baguette. Mais je le fais aussi pendant des autres fêtes, pas seulement pour Noël. Hein.
C'est la braguette magique.
La braguette magique, c'est tout à fait.
Un peu d'argent sur vous ?
Oula ! Ouais, un petit peu. Pas beaucoup, parce que le cash ici, en France, c'est illégal. Dès que tu as du cash, tu es mafioso. Ah, oui. Je ne sais pas pourquoi.
Il y a des cartes, hein,
en tout cas. Cartes, oui, des cartes. Des cartes de visite, mais c'est dommage qu'on n'ait pas à la télé, mais ma carte de visite, tu ne l'as jamais vue, toi ? Je suis moi une bonne sœur, tu vois.
Ah oui.
Et de l'autre côté, il y a le derrière de la bonne sœur. Puis on ouvre une petite fenêtre, tu vois, l'entrée des artistes. Et avec le doigt. Eh, oh, oh. Tous les gens regardent, mais les pauvres à la maison, qu'est-ce qu'ils comprennent, tu vois. Alors, avec mes doigts, je pince mon doigt et je le mets dans un petit cadre qui, ça fait comme les fesses un peu rosées de la bonne sœur. Et par le devant, on a l'entrée principale.
À l'entrée principale.
Oh, elle est bien la carte.
Et oui, ça c'est une idée victorienne. Et puis j'ai le plan pour aller chez Drucker. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, bien sûr.
Et puis j'ai des photos pour les fans. Et puis des conneries, mais un appareil photo. Voilà.
Pas de photos de dames.
Pourquoi je dois aller balader avec moi ? Pour me rappeler comme c'était.
Qu'est-ce que vous avez sur le crâne, là, ce petit...
La petite houppette.
Oui,
une houppette un peu en forme de tour Eiffel. Ou, vu qu'on est à Noël, c'est un peu une sapin de Noël.
Est-ce que tu la gardes pour dormir ?
Oui, bien sûr, elle resterait toute la nuit, merci.
Il me semble que Tintin se coiffait comme ça.
Ouais.
C'est un peu la couverture de Tintin.
Mais comment on fait pour la faire tenir comme ça ?
Je gèle, gel Viagra, ça tient toute la journée.
Alors je note gel plus Viagra.
Que savez-vous du grand Frégoli, votre prédécesseur ?
Ben, je n'en sais parce que à 15 ans, quand je commençais à faire les expériments avec des changements de costume, le prêtre, parce que j'étais au séminaire, blablabla, qui m'a montré les tours de magie, il m'a donné un livre sur Frégoli. Et donc, je rêvais de ce monsieur pendant 2 ans, tu vois. Je rêvais de devenir un jour peut-être un peu comme lui. Et puis, malheureusement, je me retrouve à être l'héritier de Frégoli.
Est-ce qu'il arrivait à faire autant de changements de costumes en
une
soirée ?
Oui, il faisait 60 personnages dans son spectacle.
Vous en faites 80.
Oui, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le temps. C'est que... À cette époque-là, une voiture qui était une voiture en toute vitesse, elle a un 40 à l'heure, tu vois. Alors que maintenant, il va, je ne sais pas, 220, 300, etc. Ouais. Donc, l'idée du temps, c'était vraiment différente. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas le montage. Avec le montage cinéma, maintenant, tu sors d'une porte, tu es habillé d'une certaine façon, tu sors d'une autre porte et tu es plus vieux, maquillé, changé différemment, parce qu'il y a des heures et des heures de tournage entre les deux, mais tu colles avec le film. Et bon, il n'y avait pas ça dans le 1900. Et donc, voir quelqu'un qui se changeait en 15 secondes, c'était un éclair. Maintenant, en 15 secondes, tu as le temps de changer 14 chaînes à la télévision. Donc, il faut vraiment qu'une seconde, c'est une seconde.
Alors, 80 personnages différents, mais tous inspirés par le cinéma.
Oui, cette fois, le thème du spectacle, c'est le cinéma, parce que c'est un thème qui laisse ouvert les portes à tellement de possibilités. Je peux faire des femmes, des hommes, des enfants, des citations que cultivées. Ou de,
vous auriez pu faire un chien, Rintintin aussi.
Oui, mais bon.
Mickey.
Mickey, tu sais que j'ai fait Mickey à Shanghai et les gens ne connaissaient pas. Parce que c'était interdit pendant 60 ans en Chine, Mickey. Walt Disney était interdit.
Comment avoir sélectionné ces personnages ?
Eh bien, on s'est dit, qu'est-ce qu'on se rappelle tous de certaines... par exemple, Hollywood, on a fait une liste, et voilà, on est sorti avec les mêmes noms. Il y a un morceau sur le film d'horreur, alors on s'est dit, qu'est-ce que les gens se rappellent des horreurs ? Alors, Linda, de l'exorciste, le prêtre, la tronçonneuse, le vampire, et on fait tout ça dans 5 minutes, ça c'est le 5 minutes d'horreur, les enfants pleurent, mais on est contents. Non, ils pleurent, mais après, il y a leur maman à côté, alors, bisous, bisous.
Quelle est la durée moyenne d'un changement de costume ?
Oh, 8 moins. Enfin, un des plus longs, c'est 8, et puis on va 7, 8, jusqu'à 1,5. Je suis sur le Guinness Book.
Vous parlez en secondes, là ?
Secondes, bien sûr.
Mais pas 8 heures. Hein.
Mais non, à 8 heures, c'est le matin. Oh, le matin, je suis très lent.
Il y a combien de personnes en coulisses pour vous aider ?
Il y a seulement 2 qui me touchent, et puis 11 pour la machinerie.
Qui
me prépare et qui me touche vraiment. Parce que plus que ça, on s'emmerde. Enfin, non, n'est-ce pas ? Plus que 2, trois, ça va déjà.
Oui.
Non, parce que c'est vrai que dans le temps très court dans lequel on se change, moi, je peux faire des choses tout seul, les chaussures, etc. Puis il y a quelqu'un pour la veste et les pantalons. Et puis peut-être quelqu'un pour une perruque à certains moments, mais plus que 2 ou 3, c'est inutile.
Mais enfin, il n'y en a que 2 qui ont le droit de vous toucher.
Oui, un garçon et une fille. On va avoir la vapeur. Allez !
Quels sont vos personnages préférés ?
Ben, il n'y a pas de personnage préféré parce que ça dure tellement peu, chaque personnage, une minute, 30 secondes, le personnage lui-même. C'est un esquisse, tu vois. C'est pas un vrai personnage, pour dire à la façon théâtrale. Il n'y a pas le temps de rentrer vraiment dans l'âme du personnage, mais c'est une... Quelques traits, les gens reconnaissent Singing in the Rain, Gene Kelly, le sourire, da-da-da-da, c'est déjà fini.
Comment être à la fois un Fred Bogart et Ingrid Bergman ?
Ça, c'est une trouvaille un peu théâtrale, parce que je suis à moitié droite, un Fred Bogart, et à gauche, je suis Ingrid Bergman. Parce que le côté gauche, c'est toujours le côté féminin, chez tout le monde.
Oui, mais alors dites donc, ça c'est un double changement de costume.
Oh, mais je n'ai fait plusieurs de doubles. On voulait mettre aussi Bette Davis qui pousse John Crawford sur la chaise roulante, tu vois.
Ah oui.
On va la faire prochainement.
Comme dans le film.
Les doubles personnages, tout seul je fais les deux, oui. Mais je vais le faire pour la prochaine, à la rentrée par exemple.
Qui a conçu vos vêtements à transformation ?
Ben, moi je conçois les costumes et puis je les fais faire chez les couturiers. Pas toujours le même, hein. On change Montréal, Turin, l'Italie, et puis j'ai fait signer des papiers terrifiants, des confidentialité, donc ils ne peuvent pas révéler le secret. Sinon, c'est comme la Coca-Cola. Hein.
Ah, il y a des secrets, hein.
Ben oui, bien sûr qu'il y a des secrets. C'est des architectures.
Mais vous êtes le conceptuel de tous vos costumes.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et je fais encore des expériments, parce que forcément, il y a des gens qui me copient. Parce que quand les gens ils voient que tu peux faire un petit peu d'argent avec quelque chose, tout de suite, ça. Alors, pendant 20 ans, je l'ai fait, personne ne m'a regardé. Ah oui, il est mignon, pas mal. Hein. Et puis, tout à coup, on est arrivé à Paris l'année 2000. Waouh, le public, la télé. Hein. Alors, tout le monde, tous les jeunes, disent « Ah, merde, là, quelque chose que moi aussi, je peux faire un peu d'argent. » Ils ont commencé à me copier. Mais les gens, ils copient les choses que je faisais il y a 20 ans, il y a 15 ans. Alors, je fais encore des expériments pour épater, bon, bien sûr, le public, mais aussi pour assommer mes imitateurs, tu vois. Là, par exemple, dans ce spectacle, je suis en caleçon. À un certain moment, je rentre dans la coulisse et 6 secondes, je suis complètement habillé, chemise, pantalon, cravate, veste, et ça, il n'y a personne qui le fait dans le monde.
Ah non, 6 secondes.
6 secondes.
6 secondes pour s'habiller, tu vois.
Pour se rhabiller, tu me dis. Même... Ciel, mon mari. 1, 2, 3, 4, 6. Oui, je suis le plomb.
Faut que le mari court vite. Hein.
Voilà, c'est ça.
Qu'il court vite et qu'il soit méchant. Hein, parce que
juste après hier, il y avait en France, vous vous rappelez, Philippe, qui était un comédien d'ailleurs, qui s'appelait Gérard Séti.
Oui. Je le connus très bien.
Oui. Mais alors c'était beaucoup plus long. Et il faisait 7-8 personnages, pas plus.
Oui, bien sûr.
Mais il parlait beaucoup.
Je l'adore. Et en plus, je fais pour. Quand je suis chez moi, j'ai essayé de faire son numéro pour mon plaisir. Et c'est fantastique. Oui,
c'était un très bon comédien. Ouais,
très bon comédien.
Il travaillait à vue, c'est-à-dire qu'il faisait ça entièrement sur scène. Sans trucage.
Sans trucage. Alors qu'il changeait de place. C'était des costumes pas truqués. Il changeait de place. Le t-shirt devenait un pantalon.
La serviette, comme dirait Pierre Belmar, devenait... un chapeau napoléonien.
Oui, et il parlait sans arrêt.
Oui. Ben oui,
vous n'avez pas de texte.
Et surtout, les gens étaient comme distraits par le texte. Et tout à coup, c'est le torero. Voilà, et tout de suite, ils réalisaient une chose qu'ils avaient carrément vue.
Oui, vous, il n'y a pas de texte.
Oh oui, quand même un petit peu, pour raconter l'histoire.
Est-ce que vous jouez au tennis?
Non. Je suis nul dans les sports.
Moi aussi. Ben, on va quand même disputer une partie. Et l'arbitrage sera confié à Philippe Chevalier. Voilà, monsieur Chevalier va s'installer sur la chaise de l'arbitre. Alors, soyez pas inquiets, il n'y a pas de balle. Il y a des questions et puis il y a des réponses.
N'y attendez pas, là.
Vas-y,
Arturo
Philippe,
Brachetti. Combien de temps mettez-vous le matin pour vous habiller?
Trop.
Mais vous vous habillez plus rapidement que la normale?
Non. Parce que le problème, c'est que quand les gens me demandent « Ah, vous pouvez montrer à ma belle-mère, à ma femme, de s'habiller vite. » Le problème, c'est que les femmes, surtout, le matin, ils ne savent pas quoi se mettre. Est-ce que je mets rouge ou vert? Ou le chapeau? Alors, ça prend des demi-heures, ça. Alors, ensuite, le soir, tu organises et tu me dis « Demain matin, je vais m'habiller comme ça. » Tu vas voir, ça va très vite, hein.
Eh bien, un point pour Arturo Brachetti.
Oui, j'ai
mon accent espagnol est formidable.
Avez-vous complètement dans la tête l'ordre de succession de vos numéros?
Bien sûr.
Ah oui, il vaut
bien
mieux.
Sûr, si je me trompe, là, je suis dans la merde grave. Hein.
Mais il y a quand même un pense Arturo qui est sur le mur, non?
Non. Pendant les répétitions, il y a des papiers pour les assistants les premiers jours de répétition, puis on arrache les papiers, ciao.
Jamais trop de mémoire.
Mais de temps en temps, quand j'ai la fièvre, une fois, ça m'est passé, j'avais la fièvre, donc je prends des comprimés pour la fièvre, on devient un peu là, non? Ouais. Et alors, ça m'est passé dans une sketch sur Aïda, je faisais Aïda, tous les personnages, et je suis rentré dans la coulisse et je demandais à mon assistant « Qui je suis là ?» Il dit « T'inquiète pas, t'es Radames !» Et tout de suite avec la musique, Radames,
Ah, faut des réflexes, mais vous avez l'air d'être un rapide, hein?
Je suis rapide dans tout, malheureusement. Je mange vite, je me change vite, je m'emmerde vite, etc. etc.
Et les dames s'en plaignent?
Mais non, parce que quand même, il y a tellement d'autres choses à faire. Non.
Elles prennent ce qui vient, les dames. Hein.
Oui, on ne généralisait pas. Hein.
Mais ça fait un peu comme le pape là-haut avec cette voix. Oui. C'est impressionnant.
Oui, il y a une réverbération acoustique, c'est vrai. Oui.
Est-ce que vous évitez les boutons pression et les fermetures éclair?
J'évite les fermetures éclair, pas les boutons pression.
Le scratch?
Ben, etc., etc.
Et oui, ça fait
c'est
partie
un
des...
secret.
Non, ça fait partie du secret, ça.
Bien sûr, même à l'époque de Fregoli, il y a 50 ans, il n'y avait pas les boutons pression, les scratch et tout et ça, non. Les pauvres. Ils faisaient vraiment beaucoup plus lentement. Hein.
4 points pour Arturo Brachetti.
Mais qu'est-ce que je gagne à la fin avec
à être encore plus notre connu.
Estime. Le bijou notre du estime. Pape chauve, là-haut. Ouais. Non, pas chauve, non. Excuse-moi, je voulais des garnis.
Effectivement, j'ai pas mis ma calotte.
Combien pèse votre crinoline de Scarlett O'Hara?
26 kilos. Ouais, mais c'est pas le seul. Il y a des costumes très lourds. C'est pour ça que je transpire dans le spectacle. Et quand on me dit, il faut en faire 2 par jour, je dis, ouh la vache. Ouais. C'est comme faire de l'aérobic. Aérobic, on dit.
Aérobic.
Oui, de l'aérobic, c'est autre chose. Mais
ça se fait dans le Périgord.
Oui, ça faut demander. C'est quand même aux spécialistes.
C'est quand même rare qu'on fasse de l'aérophagie de ce côté-là.
On appelle ça Belmar aérobique.
Mais l'aérobique, mais combien aussi, vous perdez en moyenne à la fin d'un spectacle?
Je pense à 1 litre, mais c'est de l'eau.
C'est du sport, hein?
C'est du sport, c'est pour ça que ça serve.
Alors, 1 point pour les questions pertinentes de Philippe Bouvard, 5 pour les réponses...
Non moins pertinentes
d'Arturo.
Qu'est-ce qui vous a fait entrer au séminaire?
Mon papa, parce qu'il avait raté sa vocation quand il a, je pense, dans les années 40, parce qu'il avait la guerre, donc il a pensé que son fils est né, parce que j'étais gentil, j'étais timide, j'étais un peu con, voilà. Alors on m'a amené au séminaire. Mais à 11 ans, on ne comprend pas trop, on est là et... On s'ennuie de la maman, mais bon, à part ça, c'était bien, c'était très bien.
Non, mais vous envisagiez sérieusement d'entrer un jour dans les ordres?
Non, mais quand tu es là,
on t'amène à Ausanne, on donne un séminaire et on te parle de Dieu et tout ça pendant, je sais pas, 3-4 heures par jour. C'est normal qu'après 3 ans, tu dis peut-être le bon Dieu, il m'a appelé. Mais puis, je rencontrais le prêtre qui faisait des tours de magie. Je commençais à faire des tours de magie. Je commençais à avoir les clés pour sortir en cachette du séminaire pour aller faire des spectacles, tout ça. Alors, je dis, peut-être que le bon Dieu, il m'appelait, mais peut-être aussi qu'il s'est trompé de numéro. Alors, à 17 ans, je suis sorti. Et le prêtre, il m'a dit quand même, c'est pas important d'avoir une vocation religieuse, c'est bien avoir une vocation dans la vie. Et ça, c'est une belle phrase.
Oh, ben, j'étais un prêtre aux idées larges.
Oui.
Enfin, vous participiez aux séances de cinéma, au séminaire.
Bah, parce qu'on avait les projections tous les semaines. Vous dites hebdomadaire?
Oui, c'est tout ça. Oui.
Oh, c'est, j'ai appris un nouveau mot. Je dis, c'est chic, vous n'est-ce pas.
Hebdomadaire, c'est avec deux bosses.
Et alors, qu'est-ce que vous faisiez? Vous tourniez la manivelle?
Je faisais aussi l'assistant de prêtre projectionniste. Alors, on regardait le film le dimanche matin pour voir qu'il n'y avait pas trop de bisous. Et puis, le dimanche soir, on avait la séance. Et donc, je voyais tous les films. Je me suis tapé Autant n'importe le vent, Les Dix Commandements, tous ces films, deux fois. Alors, c'est pour ça que j'aime le cinéma aussi, parce que j'étais obligé de le regarder chaque dimanche, deux fois.
Est-ce que vous êtes habillé parfois en prêtre depuis? Non.
Non, parce que, écoute, des fois on me demande, est-ce que tu, dans la vie, est-ce que tu t'aimes t'habiller pour, je sais pas, faire des blagues? Oui, maintenant, je le fais. Et alors, j'ai deux, trois looks pour passer inaperçu, surtout en Italie. Un, c'est le prêtre. Je m'habille en prêtre, vraiment, dans la vie, avec une super perruque de Jean-Paul Belmondo, que j'ai piqué à lui-même, le pauvre. Non, parce que je t'explique. J'étais au Marigny, au théâtre de Marigny. Et je venais de commencer. J'ouvre un tiroir dans ma loge, que c'est justement la loge qu'il y a un mois, enfin, à l'époque, c'était de Jean-Paul Belmondo. Je trouve plein de perruques. Je demande à la couturière, c'est quoi cette perruque? Et Jean-Paul Belmondo, il les a oubliées. Donc, une perruque de cinéma fantastique, tu sais, sur le tulle. Tu vois pas que c'est une perruque. C'est des perruques chères, hein. On parle de 2 500 €, etc. Hein. Alors, je dis, tiens, il n'a pas oublié la perruque à 2 500 €. Il dit, bon, écoute, si dans 3 semaines, il revient, passe à toi. Alors, j'ai attendu. J'ai changé de tiroir quand même, la perruque. Et puis, après 3 semaines, il n'est pas passé. Donc, je me suis retenu l'héritier de cette perruque. Et je l'ai mis, et vraiment, franchement, ça me change la tête. Il avait un peu cheveux gris, un peu frisé. Je fais très portugais. Tout. Alors, je me la mets avec une paire de lunettes Ray-Ban un peu cradeuse. Là, et je fais le prêtre. Et je sors, je prends un café, je vais chez acheter le pain. Je vais trouver des parents. Par exemple, avec une copine, on est allé chez une vieille tante. Elle a déjà 86 ans. Alors, je dis, tiens, ça lui va faire plaisir qu'il le prêtre, il arrive, le dire bonjour. Alors, on arrive dans le petit village avec ma bagnole. Quand même, j'ai une grosse voiture. Et ma copine à côté, qui est un peu, tu vois...
Une italienne,
Gironde,
quoi.
Gironde. Oui, Gironde. C'était le prêtre, potelé. Mais il y avait Michonnet. Les saints qui n'étaient pas loin.
Voilà, c'est ça. Alors, la police, ils nous arrêtent. Alors, ma copine, oh, mince, ils vont nous mettre en prison. Mais non, mais t'inquiète pas, on n'a pas volé, j'ai seulement habillé un prêtre. Hein, alors, écoute, c'est légal, hein, tu sais, c'est pas illégal. Si tu confesses, tu fais la messe, non, c'est illégal. Mais si tu conduis la voiture en prêtre, c'est légal. On était à 70 à l'heure, naturellement. Dans un village, la police nous arrête, les carabinieri, je descends le vide, chut, document. Oh, monsieur le père, moi vous pouvez aller, je vous en prie. Avec quoi? Si on est prêtre, on peut aller à 70 à l'heure dans les villages. Oui. Et alors, oui. Ma copine a dit,
à t'es vraiment enculé. À condition de ne pas perdre les saintes huiles, oui.
Hein?
Oui. Non, mais parce que... peut-être d'abord, en Italie, on peut s'habiller en prêtre sans éveiller l'attention. En France, ça devient plus difficile.
Oui. Mais oui. C'est drôle parce que... Puis j'ai des autres looks. J'ai un look de rocker. J'ai un look de professeur de philo. Je vais au théâtre avoir des pièces comme ça. Comme ça, je ne suis pas obligé de dire bonsoir aux camarades acteurs, même quand ils font des pièces à chier. Je ne suis pas obligé de dire... Non, mais je ne suis pas obligé de faire les compliments à la fin, tu vois.
L'arbitre, il est dans le cirage, là-haut.
Non, l'arbitre, il écoute passionnément et il trouve regrettable que le prêtre le faux prêtre qui est avec une fausse bonne sœur ne déambule pas dans la rue avec une voiture d'enfant, parce que ça, ce serait encore très drôle.
Oh, ben, il y avait des blagues que faisait Jean Carmet...
En prêtre, oui.
En prêtre,
oui.
et généralement très agressive, hein, puisqu'il disait des horreurs, il pinçait les fesses des dames. Enfin,
c'est ça qui est drôle.
Non, non, moi je fais pas ça. Mais quand même, n'importe quoi qu'on fait habiller un prêtre, ça devient tout de suite. Même si je suis habillé un prêtre, je dis « Oh, merde !»« Oh, monsieur le père, vous avez dit merde !»« Oh, bon Dieu, je dis merde !» Alors, on rigole comme des cons pour des choses absolument...
« Oh, merde, j'ai dit merde !»
En Italie, ils ont encore la soutane.
En Italie, on voit beaucoup de prêtres en
Italie,
soutane.
Ils ont encore la soutane.
Ah oui, bien sûr.
Non, pas vraiment.
C'est dommage que ça se perde. Je trouve ça joli, moi, un prêtre en soutane.
Ah,
c'est
magnifique, c'est magnifique.
Ah oui.
C'est le mystère de la Sainte Trinité.
Il y a un long moment à le déshabiller, parce qu'il y a 33 boutons.
Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de copains prêtres et sœurs, parce que je pense que l'Église, à la base, c'est fantastique. Les vrais gens qui travaillent avec les gens, les vrais prêtres de la paroisse, avec les drogués, tout ça, c'est des gens fantastiques.
Oui, c'est vrai.
Plus on monte, là, plus c'est les nuages de la bureaucratie du Vatican, là. Je ne veux pas parler de ça.
Oui, mais enfin, vous qui êtes sensible au costume, plus on monte et plus c'est élégant.
Ah oui. Plus élégant, tu sais, il y a toutes ces blagues sur le pape. Dit, oh, monsieur le pape, vous avez une très, très belle bague. J'ai aussi la parure avec les
boucles d'oreilles.
Les boucles d'oreilles. Mais on ne me laisse pas les mettre.
Eh bien, on est à 10 points pour Arturo.
À combien de personnages différents en êtes-vous?
Ben, à la maison, j'ai 350 costumes. Ce n'est pas 350 personnages. C'est... Non. On va dire que c'est une centaine de personnages et puis dans différentes situations. Parce que, par exemple, l'enfant. Alors, je fais 4-5 enfants dans ma vie. Ça se ressemble beaucoup, l'enfant. Il y a ces 4-5 costumes différents. Mais en effet, l'enfant, c'est enfant. Tu vois.
Est-ce qu'on parvient encore à être soi-même quand on a été 80 personnages différents?
Parce que tu fais juste Kitso, mais pour jouer, un peu enfantin. C'est comme les enfants qui disent « Ah, tiens, je vais faire le... »
Je vais me déguiser.
Le mousquetaire. Et puis, c'est pas comme Dustin Hoffman qui fait un film, faisait, tu sais. Oui. Alors, il passait 3 mois à parler avec personne parce qu'il devait faire l'introverti. Non, non, moi, je fais
on
pas ça.
On perd pas son identité.
Pas du tout. Au contraire, c'est un voyage dans les personnalités comme ça, humaines, assez marrantes. C'est une thérapie.
Est-ce que vous ne rêvez pas parfois de monter sur scène dans un vrai rôle avec des gens qui vous donnent la réplique et un texte?
Je l'ai fait pendant plusieurs fois. J'ai fait Le Songe de nuit d'été de Shakespeare. Malheureusement, toutes les fois que je rentre sur scène, le public dit « Ah, il va se changer, ah, il va se changer ». Mais non, Shakespeare, ça ne se change pas, putain. Alors, des fois, c'est un peu décevant pour le public. Parce que...
On est à 11-3.
11-3.
11-3. C'est pas terrible au niveau médical.
Très beau score.
C'est faible.
Qu'attendez-vous pour vous produire à Broadway?
Et j'attends
le contrat.
C'est pas facile vraiment. Quand les gens disent ah t'es unique au monde, pourquoi tu fais pas Broadway? Parce que pour aller à Broadway ça coûte énormément. C'est pas le spectacle qui coûte, c'est la pub, le théâtre. Alors il faut avoir un producteur qui a disposé à, je sais pas, à balancer.
Est-ce qu'il y a un Américain qui fait un numéro semblable au
vôtre? Personne, personne. Franchement, personne. Oh, je fais le tour du monde pour cette raison, parce qu'il n'y a pas une Amérique. Moi, j'ai commencé au Paradis Latin en 1979. J'étais le seul au monde. Jean-Marie Rivière, il m'avait pris parce que j'étais le seul au monde. Après Frigoli, mais Frigoli, on ne le voyait pas depuis le 1922. Alors, hein? On avait oublié. Et après, fur et à mesure, il y a des gens qui me copient, mais c'est des gens qui copient 5 minutes, 10 minutes, pas un répertoire d'une heure et demie, deux heures, tout seul. Et donc, souvent, par exemple, il y a quelques années, Woody Allen, il est venu, Woody Allen lui-même, au Théâtre Mogador, et il m'avait dit, si tu veux rentrer à Broadway, je vais te parrainer. J'ai dit, merveilleux. Le problème, c'est que c'est toujours le producteur qui sort 4 millions de dollars, qu'on le trouve pas facilement. C'est ça, en réalité.
Dernière question avant les autres. À quoi occupez-vous vos jours de relâche?
Ben, souvent, je vais au théâtre. Le problème, c'est que c'est le lundi, les théâtres sont fermés. Sinon, je fais des choses banales pour me...
La séduction?
Ah oui, parce que lundi, il y a relâche, donc on peut... Il ne doit pas garder l'énergie pour le spectacle, on va dire ça, non? Ben oui, si on peut, oui.
Oui, sauf que déshabiller, se rhabiller, ça vous rappelle le boulot.
Eh oui.
Non, mais là, c'est lentement. C'est beaucoup mieux.
Bon, on fait le compte, monsieur l'arbitre.
On a un très beau total de 14-4. Très beau match.
tout le monde n'a pas votre métier quand il s'agit de se travestir. Et Enrico Macias, que vous devez connaître, nous avait raconté ce qui lui était arrivé un jour en coulisses.
J'ai joué une pièce de théâtre il y a un peu plus de 10 ans, où j'étais en travesti pendant au moins une heure dans le spectacle. Et j'étais habillé en femme, et je vous raconte pas ce que j'ai enduré. J'étais habillé en femme, j'avais la perruque, et quand j'ai essayé ma robe, avant le début de la pièce, je me suis regardé devant la glace et puis j'ai dit « Ah, maman !» Et à l'entracte, il fallait que je monte des escaliers pour aller dans ma loge. Et alors je montais avec les talons aiguilles, comme ça, je me dandinais. Il y avait un pompier de service, là, qui me suivait, il me regardait des yeux. Alors je sens son regard, je lui dis « Pardon, qu'est-ce que vous avez, vous ?» Il me dit « Vous êtes très, très bien habillé en femme. » Je lui dis « Va-t'en d'ici, sinon je vais te niquer ta mère !»
C'est vrai que, bon, on peut s'y méprendre, parfois, hein.
Eh oui. Tu me vois, pour le spectacle, je me maquillage passe-partout. Je peux faire les hommes, les femmes et tout ce que je veux, avec les masques, etc. Mais c'est vrai que je ressemble ma sœur quand je suis habillé en certaines femmes. Oui. Je fais une pièce avec Ugo Tognazzi. Et justement, la pièce était moitié en femme et moitié en homme. Je faisais un espion chinois. C'était M. Butterfly, qui est vraiment existé et qui a convaincu. Il a vécu avec une copine chinoise. Il a découvert après 20 ans que c'était un homme, blablabla. On a fait une pièce. Donc, moitié de la pièce, j'étais habillé en chinoise et moitié en chinois un peu méchant, etc. Et quand je suis arrivé à une des premières scènes, il y avait, je ne sais pas, la première, j'entends « Oh, Laura !» Et c'était ma mère qui reconnaissait dans moi ma sœur. Alors, parce que je ressemblais beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'il y a... Il y a des gens...
Et Tognazzi était un chaud lapin, hein.
Ah, Tognazzi, bah, tu sais, fantastique, il avait 75 ans, il avait même des histoires à la Fedo fantastiques. À l'hôtel, il avait une copine qui devait cacher dans un placard pendant qu'une autre, il arrivait pour... Je sais pas. Et fantastique, je dis, écoute, à ton âge, Berlusconi, c'est une bonne sœur. Hein.
Première citation envoyée par Madame Bresson de Pierrefonds qui a dit... Il n'existe pratiquement aucune différence entre un Anglais en érection et un Italien impuissant.
Frédéric Dard.
Frédéric Dard. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, vous êtes installé aux Folies Bergères, vieux théâtre parisien.
Il faut voir le Folies Bergères. Pas seulement le Folies Bergères en soi-même, mais les coulisses des Folies Bergères. C'est vraiment comme rentrer dans un musée du music hall, c'est fantastique. Tu sais qu'en bas de la hall du Folies Bergères, par exemple, il y a un autre petit théâtre qui, avant, on appelait le théâtre de la danse du ventre, mais pendant la période, par exemple, nazie, c'était le petit théâtre dans lequel les gérarques nazis faisaient les auditions pour les, soi-disant auditions, hein, pour les filles. Donc, il y a plein d'histoires dans les murs de ce théâtre. Puis, la salle, c'est 1920, donc il y a une salle extérieure du 19e, qui contient une salle de 1920. Et entre les deux, il y a toute une forêt de choses oubliées. Par exemple, il y a un gros lucernaire, enfin, un grand
lustre.
Et pour changer, il dit, comment vous faites à changer les ampoules? On sort la main par une petite trappe, et puis quelqu'un en bas, il crie, à droite, à gauche, non, la deuxième. Alors, imagine-toi, alors, c'est fantastique. Et puis, quand on avait l'ampoule vieille, écoute, il l'a jeté dans le grenier. Donc, dans le grenier, il y a 400 ampoules comme
c'est
ça qui datent. Par exemple, les loges. Mais je suis au premier étage dans la loge, c'est 1960.
Elles sont
le deuxième, c'est carrément années 40-45. Le troisième, c'est la guerre 14-18. Hein, parce que c'est les murs jamais peints, mais c'est plein
de
charme. Et là,
il n'y a plus de danseuses. Hein.
Et non. Malheureusement.
Ça a été le temple des petites femmes de Paris.
Ben
hein.
Oui, mais Josephine Baker, Charlie Chaplin, tout le monde est passé, Grock, Maurice Chevalier, tout ça. C'est
Jean Gabin, non, il n'a pas débuté là, Jean Gabin, comme boy, à Moulin Rouge. Moulin Rouge, il n'était pas aux Folies Bergères.
Chaplin, il fait partie de votre catalogue.
Oui, et je connais aussi bien son neveu, James Thierry, qu'il est venu d'ailleurs.
Le clown célèbre, oui.
Oh, je peux pas dire. C'est un artiste de l'art visuel. Oui. Mélange
danse. Il fait beaucoup de mimes. Oui, oui, oui.
Oui, mimes et tout. Et fantastique.
Il fait des beaux spectacles.
Et oui, Charlie Chaplin, il a commencé. Là, tu sais que Charlie Chaplin, à Londres, il travaillait avec Stan Laurel. Dans la même troupe de Carnot, ça s'appelle la pantomime Carnot. Et ils étaient petits, Charlie Chaplin et Stan Laurel, ils jouaient ensemble, ils faisaient des cascades, tout ça. Tout ce qu'ils ont recyclé dans les cinémas muets.
Et puis alors, un autre témoignage sur les périls qui guettent le changement de costume à toute allure dans la coulisse, est raconté cette fois par Laurie.
Quand je fais un concert, je change 8 fois de tenue. Ouais. Et donc voilà, donc c'est vrai que dès que je sors de scène, je cours très vite et il y a derrière la scène un petit espace, un petit cube où je rentre rapidement qui s'appelle le changement rapide, la loge changement rapide. Voilà. Et là, il faut qu'en 10 secondes, j'ai changé de tenue. Donc ça va très très vite.
De haut en bas.
Pendant qu'il y en a un qui m'enlève le haut, moi j'enlève le bas, il y en a qui m'enlève les chaussures, l'autre il me tient les cheveux, l'autre il me tient le micro, enfin bon, bref.
Et c'est personne au milieu, quel dommage.
Et à un moment donné. Et donc, à un moment donné, je devais enlever le pantalon et le collant.
Oh là 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 là, il aurait fallu que je fusse là.
Et pour aller plus vite, j'attrapais les deux en même temps et j'enlevais tout d'un coup. Sauf qu'à ce moment-là, donc j'enlève tout, puis moi j'ai dit « Allez vite, toi, tu me mets ci, tu me mets ça, mets-moi le haut et tout ça. » Et là, les gars sont restés bouche bée. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Dépêchez-vous. » Il n'y avait plus de culotte.
Oui. Il y a des bons boulots quand même. Hein.
Oui. Déshabilleur de Laurie.
Une question de Madame Léger de Reims.
Question
qui a
légère.
Dit « Je reconnais tout de suite une Italienne à sa façon de bouger. Les Italiennes ont une sensualité naturelle et une manière de porter leur corps très particulière. C'est culturel et il n'y a rien à faire. »
C'est Jean-Paul II.
Alors, c'est une belle Italienne.
Ah, oula, elle a laissé son portable, non.
Qui annonce d'ailleurs la couleur.
Gina Lollobrigida ?
Non.
Claudia Cardinale ?
Je dis qu'elle annonce la couleur parce que même si on ne la connaît pas, son nom est évocateur.
Elle a une grosse poitrine, non ?
Ah, bah oui, comme toutes les Italiennes.
Sophia Loren ?
Non.
Non.
Alors, elle tourne beaucoup, elle vit en France, elle est mariée avec un Français.
Cardinal.
Ah, bah c'est Monica Bellucci.
Monica Bellucci. Bonne réponse de Jacques Maillot. Alors,
belle Monica.
Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vraiment, vous, quand vous voyez une femme sur les Champs-Élysées, vous savez si c'est une Italienne ou une autre?
Mais souvent, les Italiennes et les Italiens, ils aiment vous habillez bien, pour naturellement être. Et franchement, même s'ils sont un peu moches, ils trouvent un look qui va avec le moche, mais qui ça fait personnage. Et à la fin, il devient intéressant. Par exemple, il y a des mecs moches qui s'habillent un peu gangster ou un peu pirate. Tu vois. Alors, il est moche, mais ou une femme aussi qui est souvent. Puis ça dépend des régions, parce qu'il y a quand même des régions plus pétasses, tu vois. Oui. À côté de l'Emilia-Romagna, par exemple, à côté de Bologne.
Oui.
Alors, tu vois des sapins de Noël accrochés aux oreilles, des trucs très. Oui. C'est des régions un peu
bolognaises.
Elles
ont surtout des talents énormes.
Oui.
Mais il y a un roulement, effectivement. Costauds, hein. Moi, j'ai vu ça au cinéma. Il y a un roulement du popotin italien.
Extraordinaire.
Qui a peut-être un peu disparu, mais dans les années 60, qui était flagrant.
Ouais.
Ah ouais.
J'étais enfant, moi.
Oui, j'allais dire. T'étais bébé.
J'étais. Oui, mais tu sais.
La Dolce Vita, quand même.
La valeur n'attend pas le nombre des années.
Écoutez, ma femme est italienne, je commence à en avoir marre.
Non, c'était flatteur.
Elles sont un peu pleine du pot quand même.
Oui.
Il parle de l'embouchure.
Oui.
C'est comme la Gironde, le pot.
Voilà. Mais on peut se gaver aussi.
La question de Madame Romer, comment se pratique le signe de croix à l'italienne?
Dans quel sens?
C'est la braguette.
Non.
Ah, on fait un petit baiser, non? Il y a pas un petit baiser
exactement.
Un peu. Oui, un petit baiser.
Après
à la
avoir
fin.
Fait le signe de croix, on embrasse son pouce.
On embrasse son pouce.
C'est une bonne réponse de Philippe Chevalier.
Alors, moi, j'ai une dame qui m'a embrassé le pouce l'autre jour. Elle n'a pas fait le signe de croix avant. Enfin, j'ai pas.
Mais est-ce que c'était vraiment le pouce?
Ben c'est ça. J'ai pas vu l'ongle, alors ça ne fait pas être le pouce.
Oh.
Oh là 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 là.
C'était le pouce pour finir, mais au départ, c'était le petit doigt.
Voilà, exactement.
Question de M. Vérin de Liège. Qu'a introduit en Italie Marco Polo ?
Les pâtes.
Les spaghettis. Bonne réponse.
Et qu'il a rapporté de Chine. Oui.
Bonne réponse d'Arturo Bracchi.
C'est totalement contesté aujourd'hui.
Ah oui ?
C'est contesté aujourd'hui.
Oui.
C'est complètement contesté.
C'est vrai.
Tout à fait entre nous. Moi, je n'ai rien contre les pâtes chinoises.
Non, mais... Enfin, ça n'a rien à voir
avec les pâtes italiennes.
Et c'est comme entre la serviette et le cartable. C'est pas du tout pareil.
Mais il y en a qui disent qu'il n'y a pas rapporté de ses voyages des pâtes, mais la syphilis.
Oui, ça, c'est possible.
C'est une version un peu moins sympathique. Oui. Hein.
Ben même avec de la sauce tomate, c'est pas bon. Hein.
Ah, nous allons faire éclairer notre lanterne sur ces fameux boîtiers anti-jeunes dont vous avez dû entendre parler et qui provoquent une polémique. Bonjour Jacques Chatillon.
Oui, bonjour Monsieur Bouvard.
Alors, vous êtes directeur du laboratoire de réduction du bruit au travail à l'INRS, donc spécialiste des ultrasons. Or, ça se joue à ce niveau, les boîtiers qualifiés d'antijeunes.
Alors, les boîtiers qualifiés d'antijeunes, ils ne sont pas tout à fait dans les ultrasons, puisque si c'était vraiment des ultrasons, on ne les entendrait pas du tout. Ça serait réservé à des chauves-souris ou
aux
à
animaux,
des chiens.
Oui.
D'entendre de tels sons très aigus. Mais c'est plutôt des sons très aigus qui sont en limite des ultrasons.
Alors, on avait lancé ces boîtiers qui ont fait beaucoup parler en disant qu'ils pourraient dissuader les jeunes de demeurer dans certains endroits. Donc, il y avait une perception inconsciente de ces sons.
Non, pas pour les jeunes. Les jeunes en sont capables parce qu'ils ont une oreille donc en très bon état, contrairement aux personnes âgées qui ont
Comment ?
J'ai
pas bien entendu.
Parlez plus fort.
Parlez fort, j'entends haut.
Donc, contrairement aux personnes âgées dont je fais partie, parce que le vieillissement de l'oreille...
Ah, vous avez une voix jeune.
Bienvenue au club.
Le vieillissement de l'oreille a lieu à partir de 18 ans environ.
Ah oui, oh là là, oui.
Jeune. 18 ans, 25 ans. Donc. On commence à perdre donc une capacité auditive dans les sons aigus.
Ah oui, parce qu'il y a des chanteuses, on ne les entend pas quand elles chantent juste. Ah ouais.
Alors, est-ce que vraiment il y a des sons ou des ultrasons qui sont capables d'indisposer des êtres humains au point de leur faire quitter la place ?
Tout à fait. Des sons très aigus sont très désagréables à l'oreille. Hein. Je peux vous en faire entendre au téléphone.
Oui.
Ah, c'est épouvantable, je suis encore jeune. Hein.
Oui, mais alors ils entendent ça, ils se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'essayent pas de savoir d'où ça vient.
Mais ils ont mis ça dans un hypermarché. Hein.
Oui, c'est ça.
Hein ? Attendez, moi, on n'a pas trouvé de désagrément majeur. Hein.
Parce que ce n'est pas continu.
Oui.
Pour dormir, c'est pas génial.
Secondes, ça va, quoi. Mais à très fort niveau et pendant une longue période, c'est très désagréable, bien sûr. Hein. Et donc les adultes ne les entendent pas.
Est-ce que certains animaux, comme les chiens par exemple,
sont très sensibles aux ultrasons ?
Sensibles, oui. Ah, oui.
Tout à fait, oui. Les chiens, certains rongeurs, les chauves-souris. Donc
alors, il y a des sifflets à ultrasons.
Tout à fait.
Ah, oui, ouais, pour rappeler les chiens.
Pour les chiens, oui.
Moi, je suis sensible aux ultracons.
Et là, vous vous penchez aussi, Monsieur Chatillon, sur les cas de surdité professionnelle.
Ah bah, tout à fait. C'est classique, ça. C'est notre métier... à l'INRS, effectivement, de réduire le bruit au travail, de réduire le risque de surdité professionnelle.
Alors j'imagine que ça intéresse au premier chef les DJ.
Tout à fait, les professions de la musique sont très très exposées.
Il n'y a pas que les DJ, il y a les spectateurs qui sont trop près des baffles aussi.
Oui,
hein.
Oui.
On vous distribue des bouchons d'oreilles quand vous allez voir certains concerts.
Ah, oui. Les gens sont beaucoup plus sensibles.
Et les videurs distribuent des baffles.
Oui, c'est... voilà. C'est des comment ça s'appelle
les bouchons d'oreilles. Attends, c'est il y a des spectacles donc avec le chanteur, l'orchestre et vous avez des bouchons dans les oreilles.
Oui.
Donc vous n'entendez rien, vous ressentez très content.
Ah oui, c'est
aberrant. On est dans l'aberration totale.
Il existe des normes légales en matière de décibels.
Oui. Tout à fait. Dans le monde du travail, ce qui compte c'est un niveau multiplié par une durée d'exposition. Hein. Donc on mesure les décibels. Effectivement, donc au-dessus de 80 décibels pendant 8 heures, c'est dangereux pour la santé.
Ah, oui. Moi, je ne vais qu'assister à des messes basses, jamais de messes chantées, parce que ça me fatigue le tympan.
Ça fatigue le tympan, oui.
Non, mais ce qui était extraordinaire, c'est par exemple quand on allait au terme de Caracalla l'été à Rome. Bon, l'opéra, la Scala se déplace en quelque sorte et vient jouer à Rome en plein air, dans un endroit absolument magnifique. Il n'y a aucun micro, tu as des chanteurs et des chanteuses remarquables, et c'est un véritable plaisir d'entendre en direct, enfin, avec une acoustique tout à fait et stupéfiante, oui, d'ailleurs.
Naturelle. Bah,
tellement naturelle, bon, et c'est magnifique. Bon,
Monsieur Châtillon, vous avez entendu Pierre Bellemare qui a commencé sa carrière avec un porte-voix. C'est pas d'aujourd'hui. Merci, Monsieur Châtillon.
Merci.
Vous parlez combien de langues, Arturo Brachetti?
Italien, anglais, français, bien. Fin.
Ah oui, bien.
Sur scène, allemand et espagnol aussi. Et un petit peu de chinois, un petit peu d'hollandais.
Ben, nous avions un ami qui, hélas, nous a quittés et qui était lui aussi polyglotte, c'est Jean-Yann.
Je parle l'itafran portugléniol, qui est une, un mélange de tout mal.
Exemple.
Bah, je sais dire surouge, surouge, bedrouge, bedrouge en turc. Je sais dire chapkanun karahunda rabamnum gazarim en arménien, qui veut dire j'irai rouler en voiture sur les bords de ton chapeau, ce qui est un machin qu'on a du mal à placer dans la conversation et qui est une expression arménienne. Je sais chanter Marie Baba Gerbava, Imachter Kahubava, Damia Bay Bodai Dagda, Dastanimerodima. En bulgare, mais je ne vais jamais en Bulgarie. Mais quand je rencontre. J'ai rencontré Sylvie Vartan un jour, j'ai chanté ça, elle était pâtée.
Question de Madame Petite Bayeux. Quel est le personnage célèbre qui disait qu'il employait l'espagnol avec Dieu, le français avec les hommes, l'allemand avec son cheval et l'italien avec les dames?
Ah bah Don Quichotte.
Non, alors c'était un empereur, pour ne vous rien cacher.
Caligula.
Charlemagne.
Non, mais
Charles-Quin, c'est Charles-Quin.
Charles-Quin. Charles-Quin. Bonne réponse de ma vie.
Il occupait tous ces territoires.
Ah oui, bien
c'était
sûr.
Oui.
Charlemagne, mais non, Charles-Quin.
En quoi consiste, Arturo Brachetti, le stretching que vous exécutez le soir chez vous?
Bon, ça c'est une espèce de légende. Je le dis une fois maintenant. Je fais du stretching chez moi, à 3 heures la nuit, parce que c'est une heure dans laquelle je digérais, etc. Complètement à poil devant une miroir. Oui, mais pas complètement à poil. Je garde mes chaussettes.
Quand c'est même. Plus érotique.
Oui, mais des fois, une sur le pied et une autre ailleurs. Comme ça, pour rigoler. Mais c'est vrai.
Et ça donne,
non, ça donne rien,
une
ça
certaine
donne...
joie de vivre.
Non, ça donne que moi, je suis là devant un bâton, avec un bâton devant le miroir pour faire ce stretching. Je n'ai pas trop envie à 3 heures la nuit, mais c'est bien le faire. Et le fait de voir le corps, les muscles qui se tiennent, etc., ça me donne quand même du courage. Je dis, tiens, t'es pas trop grossi. Oh, t'es l'aigre, regarde, on voit encore le muscle abdominal, etc. C'est seulement pour me motiver.
Question de Madame Lanvy, qu'on a connue.
Oui, il y a longtemps que je ne vois plus mon muscle abdominal.
Non, mais tu sais,
non, mais il y a longtemps qu'il a disparu complètement.
On a vu ton torse l'autre jour, c'est magnifique. On a vu tes pectoraux,
ton
magnifique.
Ah oui, mais ça, je vous ai fait voir le haut, parce que vraiment,
magnifique,
vous pouvez pas voir
superbe. Voilà.
Le torse, en général, c'est en haut.
Ça vaut la baie du Mont-Saint-Michel.
Ah bah oui. Et éclairer la nuit.
Oui.
Ah oui.
Et depuis qu'il n'y a plus de digue.
Mais alors, où sont les œufs de la mère Poulard, ça?
Ça, c'est dans le caleçon suisse.
Elles sont là où il y a des poils.
Mais il y a toujours la flèche de Viollet-le-Duc.
Petits boulots.
Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous.
Je faisais le concierge d'hôtel à 16 ans.
Clé d'or.
Oui, mais enfin, clé d'or, non, j'ai porté des valises à saison. En plus, je travaillais en Sardaigne l'été, on était en chemise, cravate, à porter des valises toute la journée, donc c'était pas très chic.
C'est de plastique, là,
mais c'était bien à saison, écoute, oui.
Vous avez vendu des bijoux aussi.
Oui, j'ai vendu des bijoux, mais c'était pas une grosse affaire. Parce que, bon, c'était l'époque hippie, il y avait des copains qui faisaient des bijoux, et moi, qui j'étais avec une tête un peu plus honnête, on allait dans les magasins chercher les vendre.
Qu'est-ce que faisait Giscard à ses débuts? Il vendait des diamants, et puis après, il s'est reconverti.
Premier baiser.
Ah ouais. Mais je me rappelle, mon premier baiser, c'était vers 13 ans et demi. Et je me rappelle, on était à la maison parce que tous les mois, on retournait à la maison du séminaire. Et j'avais vu que j'étais un peu le pigeon du village à l'époque. Il y avait le groupe des autres, des petits jeunes, hein, ils disaient oh, « on va faire une blague ». Là, au séminariste. Alors, il y avait une fille qui avait parié qu'elle allait me donner un bisou. Ah, moi, je vois ce groupe arriver. Et moi, j'étais normal. Et on me coince contre le mur. Cette fille, je me rappelle, assez plus grande que moi, tu vois. Elle a fait partie le groupe. Il m'a pris ma tête. Il m'a donné un gros bisou. Tzac, avec la langue dedans. J'ai dit, oula, qu'est-ce que c'est ça? Et moi, j'avais 13 ans. Et puis, on m'a laissé comme ça. Je dis, bah, ciao, ciao. Oui, elle a gagné son pari. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Alors que ça m'avait plu. Hein. Même si on me tenait, ça m'avait plu. Et puis, je demandais à la fille, mais écoute, pourquoi tu as fait ça? Je fais un pari, je l'ai gagné. Elle dit, ah bon? Je dis, on ne peut pas faire ça sans les autres la prochaine fois. Elle a dit oui, quand même. Oui. C'était sympa. Après.
Cauchemar ou rêve?
Ben, je fais des rêves souvent dans lesquels je vole, ça me plaît beaucoup, et des fois je deviens conscient dans mon rêve que je suis en train de rêver. Je dis, oh, je suis en train de rêver, tiens, je vais voler. Alors, oups, je monte, je rentre dans les clochers, puis je sors, et puis voilà, c'est quand même très beau. Puis je fais des cauchemars assez tristes, parce que je rêve de piscines pleines de sang, avec des bras, des cadavres, ouais, et encore pire. Je,
oh, c'est mauvais.
Je rêve, on m'a dit que c'est normal. Ah, ouais. C'est de l'angoisse qu'on évacue. Je rêvais de tuer mon père avec une matraque.
C'est bien.
Ouais, plein de sang partout. Alors, on m'a expliqué que ça, c'est pas... Je me suis naturellement senti coupé. Le matin, je dis le pauvre papa, etc. Il m'a dit non, tu avais un problème avec papa, tu l'as résolu. Je dis ok. C'était un peu violent, mais je l'ai résolu.
Incroyable, mais ça m'est arrivé.
Et ça m'est arrivé que quand j'étais au théâtre Marigny dans l'année 2000, et Bernard Allaire, il était à côté dans le petit Marigny. Il me dit, tu sais quoi? Tu as commencé le 20 janvier 2000. Et je vais te porter quelque chose qui va t'épater. Il m'amène un petit poster de Fregoli qu'il avait commencé à Paris le 20 janvier 1900. Exactement 100 ans après, le même jour. Et quand même, pour Fregoli, Paris, ça a été l'explosion de sa carrière. Et pour moi aussi. Donc... C'est quand même une espèce de petit signe bizarre quand on dit c'est écrit dans le destin. Voilà, peut-être c'est ça.
Alors, il y a des numéros qui sont admirablement réglés, qu'on a fait 100 fois sans aucun problème. Et puis, un jour, la mécanique se grippe et un grand magicien que vous avez peut-être connu, Danny Larry, nous avait conté une de ses mésaventures.
On me demande souvent pour des soirées, pour des entreprises. Voilà. Et puis la question qui revient souvent, parce que souvent les agences événementielles qui débordent d'imagination, on me disent chaque fois, est-ce que vous pouvez faire apparaître le directeur de l'entreprise? À chaque fois. Je leur dis aux agences, mais arrêtez de me... Alors, je dis, c'est une des génies. Alors, j'ai inventé un tour qui est une malle comme ça. Et cette malle se bascule et on peut montrer que c'est vide. Et à l'intérieur, je fais apparaître le directeur. Et là, en l'occurrence, c'était la directrice de l'entreprise. Donc, c'est une malle assez grande, assez confortable, parce qu'ils ne sont pas forcément souples, ces gens-là. Donc, j'explique à la directrice où elle doit se cacher. Et je montre la malle vide et tout ça. Très bien. Donc, on a répété, tout ça, impeccable. Et je commence à faire mon spectacle. Tout d'un coup, mon assistant m'amène la malle et je dis « Mesdames et messieurs, maintenant, j'ai une grande surprise pour vous. » Et là, je fais tourner la malle, je montre la malle vide, je reviens et là, je fais « Attention, 1, 2, 3 !» Et je réouvre et il n'y a rien. Je dis « Attendez, j'ai mal compté. » Je retourne, 1, 2, 3 !» Et là, je voyais que la femme ne sortait pas. Et là, je dis « Eh bien, maintenant, votre directrice va apparaître !» Et là, elle ne sortait toujours pas. Et là, elle arrive en marchant des coulisses et elle me dit « C'est quand que je rentre dans la boîte ?»
Oui. On prend des risques avec des amateurs. Hein. Dernière citation, envoyée par Madame Laporte de Digne, qui a dit « Les Italiens sont des Français de bonne humeur ». Et on l'a encore vérifié avec Arturo Brachetti.
C'est assez ancien, ça, non?
Alors, c'est ancien. Ça se situe au milieu du 19e, du 20e siècle.
C'est pas un homme de cinéma. C'est pas Sacha Guitry.
Alors, il était aussi, car il était tout à la fois, un homme de cinéma.
Pagnol?
Non.
Guitry?
Non.
Il était français?
Alors, français. Il termina d'ailleurs à l'Académie française.
C'est René Clair?
Non. Non.
Achard?
Non.
Non.
Il était à la fois poète, dramaturge.
Cocteau.
Oui.
Cocteau.
C'était Jean Cocteau. Oui, racontez, Pierre Bellemare, la belle histoire envoyée par M. Escobedo de Bougin.
Il l'adore, cette histoire.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais devant vous. Vous contez l'histoire la plus ignoble concernant le Père Noël. Il n'y a pas pire. Et on m'a chargé de vous la dire. Je dégage toute responsabilité quant aux personnes qui pourraient se trouver mal à la suite de cette histoire. La voici. Un jour, le Père Noël va en Somalie avec ses elfes. Sur place, le Père Noël demande à ses elfes pourquoi ses enfants sont-ils aussi maigres. Et les lutins répondent parce qu'ils ne mangent pas. Comment ça, ils ne mangent pas? Dans ce cas, pas de cadeau.
C'est vrai qu'elle est effroyable.
Elle est ignoble.
Et merci d'avoir pris les précautions.
Il n'y a pas pire que ça.
Un grand merci aussi à Arturo Brachetti, dont on a pu apprécier la virtuosité dans notre langue maternelle, qui n'est pas la sienne. Et puis, je pense que ça vous aura encouragé à aller voir Arturo Brachetti dans un numéro que personne d'autre au monde n'est capable de produire sur la scène des Folies Bergères à Paris.
Mais on va faire aussi une tournée française au mois de mai et on retourne aux Folies Bergères au mois de juin.
Merci, ça, tu es les premiers à le savoir. À demain.